On va reprendre. On est au chapitre 7. On est en plein milieu du chapitre 7. On est à la page 113, au milieu de la page, Kegon Derech Machal. Donc, quel est le thème? Jusqu'à présent, on a parlé de deux choses. On a parlé des choses qui sont bien et des choses qui sont pas bien. Quand je fais une mitzvah, je fais quelque chose de bien. Quand je fais une avera, comme on va expliquer dans la suite de ce cours aujourd'hui, je fais quelque chose de pas bien, je fais quelque chose d'interdit. Le but de notre cours aujourd'hui, c'est de ne pas se limiter uniquement à dire « je fais ce qui est permis et je ne fais pas ce qui est interdit ». C'est d'aller plus loin. Ça veut dire quoi? Comme on a expliqué la semaine dernière, on peut avoir une personne qui est dans le kasher à 100%. Il mange kasher, il boit kasher, tout ce qu'il fait c'est kasher. Mais toute la journée, dans quoi il a sa tête? Il a sa tête dans le kiff, le plaisir. C'est kasher, c'est permis, il n'y a pas de problème, on ne pourra rien lui dire pour ça. Mais le but de ce cours d'aujourd'hui, c'est que c'est une sorte de phase B. La phase A, c'est on te demande, fais les mitzvot. Une fois, par exemple, quelqu'un qui commence à faire Shabbat, ça, il fait Shabbat maintenant. D'accord, au début, pour lui, c'est un effort de faire Shabbat. Maintenant, il fait Shabbat. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui ne faisait pas le kiddush du vendredi soir. Il ne le faisait pas. Il a fait l'effort. Maintenant, grâce à Dieu, il a réussi à faire en sorte que le vendredi soir, toute la famille est réunie pour faire le kiddush. Ça, il a la mitzvah, il l'a faite.
Ouais.
D'accord? Très bien. Donc maintenant, c'est quoi le nouveau challenge? D'accord, le nouveau challenge, c'est quoi? Il dit, ça y est, je l'ai fait la mitzvah, je fais le kiddush, c'est fini. Non. C'est quoi le challenge? Le challenge, c'est de chercher à se sanctifier dans ce qui est permis. Ça veut dire essayer d'améliorer ce qui est permis, de le faire mieux. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple encore. Imaginez une personne qui fait son Shabbat, mais que tout Shabbat après-midi, il dort. Est-ce que c'est permis de dormir Shabbat après-midi?
Oui.
C'est permis, pas de problème. C'est permis ou c'est interdit? Bien sûr, c'est même conseillé, voilà. On prend Shabbat d'été, mincha à 20h, le bonhomme il a dormi 6h, like, straight, tu vois, il a dormi 6h. C'est permis ou c'est pas permis? C'est bien sûr que c'est permis, il n'y a pas de problème. Il a peut-être même fait une mitzvah, c'est très bien ce qu'il a fait. Sauf que, quand on passe en phase B, on dit bon, maintenant que je fais déjà Shabbat, il faut essayer peut-être d'améliorer un peu mon Shabbat. Si par exemple, au lieu de dormir 6h, je dormais 5h.
Et
1h, je vais étudier. Pourquoi pas? Ça veut dire quoi? C'est une manière de sanctifier, c'est ce qu'on appelle dans la suite, Kadesh Atzmecha ben Mutarlach, ça veut dire, je vais me sanctifier dans ce qui m'est permis. Ça veut dire que là, on touche à une nouvelle zone, à une zone de choses qui sont permises, mais que je vais faire un sacrifice à Dieu. Et ce qu'il va expliquer dans la suite, c'est que finalement, avec le temps, quand on prend une vitesse de croisière et qu'on commence à accomplir les mitzvot, finalement, c'est dans ces petits points-là que va se jouer tous les sacrifices qu'on fait à Dieu. Parce qu'après, avec le temps, ça devient une routine. Je mets les tefillines tous les jours, je fais mon Shabbat, je mange kasher. Bon, ça devient une routine. Est-ce que quand je vais aller à chaque fois manger kasher, quand je vais aller dans un restaurant kasher, quand je vais aller faire mes courses au kasher à côté, est-ce que je vais sentir que j'ai fait une mitzvah? Bon, ça devient une routine, c'est normal.
Quand tu payes, d'accord, tu la sens. Hein.
Quand je paye, je la sens.
Non, non.
Payer cachère.
Payer cachère.
Donc, qu'est-ce qu'on retient d'ici en tout cas? Il est où le...
Sans commander.
Bien sûr.
Je sais pas comment il s'appelle, ce déguisement. Hein,
sinon je t'aurais dit.
Hein? Parce que moi j'étais pilote hier. Hein. Tout le monde cherche le pilote.
Le Boeing, ils l'ont pas trouvé encore. Hein.
Alors, hier, j'étais déguisé en pilote. Bon, que Dieu les aide, la vérité, parce que ça fait de la peine de savoir qu'il y a des gens qui sont... Bon. Je refais la parenthèse. Donc, on est en train de dire, qu'est-ce que nous dit le Rambam? Le Rambam nous dit, pardon, Kadesh Atzmecha b'mutarlach, ça veut dire que tu dois être sanctifié, pas seulement dans ce qui est interdit, mais même dans ce qui t'est permis. D'accord? Même dans ce qui t'est permis. Comme on a expliqué, par exemple, le Shabbat après-midi, dormir, c'est permis. Mais une personne, si par exemple il va dire « je vais dormir un peu moins pour étudier un peu plus la Torah », dans ce cas-là, ça s'appelle un vrai sacrifice. Ça veut dire qu'il a donné de son temps à Kadosh Baruch Hu. Alors en fait, ce qu'il va expliquer aujourd'hui, je vais reprendre rapidement parce que là, les 4-5 premières lignes que je vais faire, on les avait fait déjà la semaine dernière. C'est qu'il va expliquer que sur ça, hein, c'est vraiment subjectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On peut pas dire que si tu vas manger ça, t'as fait un interdit, et si tu vas manger ça, t'as fait quelque chose de permis.
En fait, le principe, c'est sacrifier ton plaisir, permis.
Exactement.
Pour un Kadosh Baruch
Hu. Exactement. Vous vous rappelez certainement l'histoire que j'ai racontée la semaine dernière, avec celui qui mangeait toute la journée. Vous vous rappelez pourquoi?
Oui.
D'accord? pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir faire Shema Israël. Ça veut dire qu'en vérité, on parle plus maintenant de quantité, on parle de qualité. Donc on va reprendre l'exemple de la semaine dernière, on s'était arrêté sur ça. Kegon derech machal, comme par exemple. Donc je suis à la page 113. Aochel bisra shmena de Torah. Celui qui mange de la viande grasse, d'accord, des taureaux de Torah de bœuf. Donc celui qui mange de la viande grasse de bœuf. Veshote yain mevusam, et qui boit du bon vin, avec une bonne odeur, c'est-à-dire du bon vin. Mais qu'il le fait pourquoi? Le'achiv dato l'Hachem ou le Torato, pour élargir son esprit pour Hachem et pour sa Torah. Alors encore une fois, nous quand on imagine celui qui va manger de la bonne viande et qui va boire du bon vin, tout de suite on s'imagine le restaurant et on s'imagine que le gars c'est un kiffeur. Tout de suite on s'imagine, le gars on fait le profil tout de suite.
Ouais.
Le gars il lui faut sa bonne viande bien grasse, avec le bon vin qui va avec, d'accord? Et attention, faut pas mélanger les vins. Est-ce que c'est un blanc? Est-ce que c'est un rosé? Est-ce que c'est un Cabernet Sauvignon? Est-ce que c'est, etc. On mélange pas. C'est un sacrilège. Une fois, j'ai eu le malheur de servir à quelqu'un un mauvais vin. Comment vous me servez un vin comme ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on peut dire que être là, à voir quel vin va aller avec quelle viande et avoir la tête dedans, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose de matériel. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dit la Gemara, que celui qui mange de la viande, de la bonne viande, bien grasse, ainsi que du bon vin, les arrive d'ato l'Hachem ou le Torato, pour élargir son esprit pour Hachem et pour sa Torah. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Eh ben, on dit c'est quelqu'un qui est en train de servir à Kadosh Baruch Hu, qui s'est sanctifié dans ce qui était permis. Pourquoi? On va développer un peu. Kedama Rava, comme Rava a dit dans la Gemara, Chamra Verecha. Il a dit le vin, Verecha, et donc l'odeur du vin, Pakrin, enfin, pardon, il y en a qui disent c'est l'odeur du vin, il y en a qui disent c'est l'odeur des Bessamim. Pakrin, ça ouvre l'esprit. Oh, ou bien, Bishvil, Kedé, Lekayem, Mitzvat, Onek, Shabbat, Veyom Tov. Alors, on s'est arrêté ici. Mm-hmm. Ou bien, imaginons qu'une personne va faire un très très bon repas. Bonne viande, bon vin, tout ce qu'il faut. Mais pourquoi il fait le bon repas? Pour accomplir la Mitzvah de respecter le Shabbat. Seulement, attention. Là, les Chassidim avaient toujours l'habitude de rajouter sur ce Perek de Tania, de dire que c'est très compliqué ce qu'on est en train de dire ici de Tania. Pourquoi? Parce que, quand une personne fait son repas de Shabbat et qu'il mange bien, est-ce qu'on peut être sûr à 100% qu'on l'a fait ce repas, l'Irvot Shabbat Kodesh? Est-ce qu'on peut être sûr à 100% que la raison pour laquelle j'ai kiffé cette viande, c'était en l'honneur de Shabbat?
100% non, d'accord, mais en général...
Je sais pas, ça dépend des gens.
Oui, bien sûr. Mais
d'accord, ça dépend des gens.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un chamier roux
d'avant? Non, j'ai pas dit ça. On n'a pas dit que c'est interdit, encore une fois. On n'est pas dans l'interdit, là. Non. On est dans le permis.
Je sais, j'ai compris, Mandy, mais comment tu fais pour...
Très bien.
Tu peux y penser.
On va y penser. Mais... C'est un travail. C'est un travail, à force de se le répéter, de se le répéter, de se le répéter, avec le temps ça va rentrer. Mais on va donner des techniques, attention.
T'as changé de place?
Oh, Bishvil!
T'as changé de place?
Non, je l'ai changé la semaine dernière.
Qui?
Un mariage, si je ne me trompe pas, le Rav qui était là-bas, c'était Rav Shalom Shvadron.
Monsieur, donc je me mets où? Je me mets là.
Il n'a pas servi le cercle à côté.
Ah,
la personne s'est levée en furie, machin, il a couru derrière.
Pas bien, fatigué.
Tu lui ramènes son poulet.
Toi, fatigué.
Alors, quand il a vu ça, Rav Shalom Shvadron. Non, c'est une histoire. Je ne sais pas si c'est le Rav qui était présent, il lui a dit. Ça va, qu'est-ce qui se passe? C'est une mitzvah. Et il a eu cette phrase, c'est quand même incroyable comment les gens. Sur le dos de la mitzvah, ils mettent leur table.
100%, à 1000%.
On est en train de dire là.
100%, bien sûr. Combien de fois, regardez, je vous donne un exemple, un autre exemple, pour montrer comment les gens, des fois, ils peuvent mettre ça sur le dos de la mitzvah. Non, c'est pas le thème, mais je referme la parenthèse tout de suite. Comment on voit des fois que les gens, ils mettent sur le dos d'une mitzvah, mais en vérité, la vraie raison, c'est pas la mitzvah. Je vous donne un exemple. Imaginez une personne qui supporte pas le bruit. Il supporte pas le bruit, le bruit des enfants, le bruit, etc.
On a le cas ici.
D'accord? C'est possible. D'accord? Ça nous arrive à tous. D'accord? Il supporte pas le bruit. Il y a du bruit à la synagogue. Taisez-vous! L'Irvod à Torah! C'est une grande question. On peut pas juger à sa place, mais moi je dois me poser la question. Est-ce que je leur demande de me taire parce que vraiment j'en ai à faire du respect de la Torah? Ou est-ce que j'utilise la Torah pour imposer mes trucs? C'est des grandes questions, ça. Mais je rentre pas dedans. D'accord? Là, ce que je vais expliquer maintenant, on va parler pour l'instant de la nourriture.
Dans cette histoire, il faut agir avec ton cœur.
C'est un travail d'intérieur. On va développer. Donc, on te parle maintenant d'une personne que, au niveau de la pratique, il est irréprochable. Il mange la bonne viande, il prend du bon vin, mais c'est cachère. Glat, chalak, y a pas de problème.
Les Méhadrin,
le top du top. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il a la tête dans son steak. Ça, c'est le problème. Alors, c'est permis, il n'y a pas de problème. Mais là, la Torah, elle vient, une deuxième phase, elle te dit, maintenant que tu as fait la phase A et que tu as réussi à manger cachère, maintenant, il faut faire la phase B. Comment bien manger cachère. Et c'est là que tu vas montrer que tu vas sacrifier à Kadosh Baruch Hu. Et on va donner des techniques. Donc, par exemple, celui qui va dire, je fais ça, l'irvot Shabbat Kodesh. Azaï, à ce moment-là, nidbarer chayut abbasar vaayayin shayin shpa vikilpat noga veola lachem keola ou kekorban. Dans ce cas-là, lorsqu'une personne, comme on a dit, il le fait pour Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie qu'il y a dans cet aliment va monter chez Akadosh Baruch Hu. Là, c'est parfait. Vechen, pareil, à Omer, milta dibdichuta. Celui qui dit une blague. Le fakir dato. Qu'est-ce que la Torah pense de l'humour? C'est très dangereux, l'humour. D'accord? C'est très dangereux parce que l'humour, très rapidement, ça part à la moquerie. C'est la réalité. D'accord? Je sais pas si vous avez déjà écouté les humoristes. D'accord? Parce qu'un humoriste doit être intéressant. Alors pour être intéressant, soit vraiment il a des bonnes blagues, soit tout de suite il va dire des mots grossiers. Les mots grossiers, ça fait rire les gens parce que ça choque. D'accord? Ou soit, voilà, il va commencer à se moquer. Alors c'est très dangereux. C'est très dangereux de rentrer dans le multa des petits routas, dans la blague. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la Guémara, il y avait une personne qu'on appelait un batran. C'est quoi un batran? Alors si je traduis littéralement, ça veut dire un rigoleur. Ça veut dire une personne qui faisait rigoler les gens. Et jusqu'aujourd'hui encore, il y a ce minhag dans les communautés ashkénazes que dans les mariages, ils ont, vers la fin du mariage, quelqu'un qui est payé pour ça, un batran. Tout le monde s'assoit, on éteint la musique, on éteint tout. Et il y a une personne qui monte et il commence à faire des blagues. Mais des blagues intelligentes, hein, pas des blagues, d'accord? Des blagues avec des divrei Torah, mais c'est des blagues, tout le monde rigole. Et c'est un batran. D'accord? C'est des bonnes blagues, des blagues cachères. Est-ce qu'il peut avoir des blagues cachères? Est-ce que c'est possible? Il te dit oui. Ou le Sameach, Libo, Lachem, ou le Torato, Vavodato. On peut avoir un Rav, par exemple, qui va faire des blagues. Pourquoi il va faire des blagues? Pour ouvrir l'esprit des gens. C'est quoi le rôle d'une blague? Le rôle d'une blague, c'est quand tu vois que les gens, ils sont un peu en train de s'endormir. Qu'est-ce que tu fais? Hop, tu leur balances une blague pour les réveiller. Parce que les gens aiment bien les blagues. Donc, comme tu l'as lancé la blague, il s'est réveillé. Ça peut être aussi pour les réjouir. Tu vois les gens, tu les vois, ils sont comme ça. T'as envie de les réjouir un peu. C'est bien la simra. D'accord? Yves doit être HMB simra. Il faut servir avec la simra. Donc, un rave qui va lancer une blague pour réjouir le Kaal. C'est magnifique. Je suis très bien de Bessimra. Il faut être Bessimra. Donc, Moshe Asa Rava le Talmidav. Comme Rava, le maître Rava, qu'on a parlé tout à l'heure, a fait à ses élèves. Shamar Lifnehem Milta de Bdichuta Trila ou Batre Rabanan. La Gemara nous raconte que le maître Rava, lorsqu'il commençait son cours, les élèves avaient tellement peur de lui, tellement c'était un grand maître, que les élèves, la Gemara elle raconte là-bas, ils tremblaient. Dès que Rava est rentré dans la pièce, les élèves, ils étaient comme ça en train de trembler. Et Rava, il avait besoin de les détendre. Parce qu'on peut pas enseigner à quelqu'un qui tremble. Pour enseigner à quelqu'un, il faut que l'élève ait la tête détendue. S'il est en train de trembler, il va respecter, mais il peut pas retenir les messages. Qu'est-ce qu'il faisait Rava? Le grand maître Rava, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait le cours par une blague. Et une blague, alors, des fois la blague, dans les commentaires disent que des fois la blague durait longtemps, parce que des fois il était tellement crispé, qu'il fallait faire une blague vraiment, qu'il ait pas éclaté de rire. Et dès qu'ils aient éclaté de rire, dès qu'ils rigolaient, ou battraient, dès qu'ils rigolaient, là il disait, bon, maintenant, on va recommencer le cours. Et le commentaire, je crois que c'est le commentaire du Marsha qui disait, qu'en fait, on a un problème ici, parce que d'un côté, la simra est très importante, mais d'un autre côté, les élèves, quand ils sont en train de rigoler, ils peuvent pas se concentrer au cours. Alors qu'est-ce qu'il faisait Rava? Il faisait sa blague. Tout le monde s'éclatait de rire. Et après, il avait un visage sérieux, net, comme ça. Blague. Et là, il reprenait, et là, il repartait. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rava, le même Rava qu'on a raconté tout à l'heure, celui qui mangeait la viande grasse, et celui qui buvait le bon vin, ce même Rava, par quoi il commençait son cours? Par une blague. Pourtant, c'est des choses qui sont très très fines, ça. La blague, le bon vin, la bonne viande. C'est des choses qui sont dangereuses. Eh ben non. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit en vérité, tant que c'est cachère, c'est bon. Seulement quoi? Qu'est-ce qui va se passer? La question est-ce qu'on le fait pour Dieu ou est-ce que je le fais pour moi? Là, Rava, c'est l'exemple d'une personne que tout ce qu'il le fait, il le fait pour un Kadosh Baruch Hu. Et donc ça, c'est, on va dans la direction de ce que le Baal Shem Tov explique. Que le Baal Shem Tov nous dit qu'on peut pas avancer dans la vie en cassant, en brisant le corps. On n'a pas le droit. Le corps ne nous appartient pas. Il y a des gens qui pensent, ils disent, oui, le corps est un frein pour avancer vers Dieu. Alors on va briser le corps. Il dit, à cause de qui je faute? À cause de mon corps. Alors je vais briser mon corps. Le Baal Shem Tov disait, il ramenait souvent cette halakha dans le Shulchan Aruch, qui dit que notre corps nous appartient pas. Une personne, Dieu préserve, qui décide de se couper un doigt, il n'a pas le droit. Parce que notre corps ne nous appartient pas. C'est un picadon, c'est un dépôt que Dieu nous donne. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'écrire sur ses mains. On n'a pas le droit de faire de tatouage. Mais c'est à moi, c'est mon corps. Non, c'est pas ton corps. C'est un dépôt que Dieu t'a donné. C'est une location, c'est une mise à disposition. Oui.
Une enveloppe, quoi.
Quoi?
C'est l'enveloppe de la Neshama.
C'est? Je n'ai pas compris. Bon, en tout cas, je parle surtout le tatouage.
Oui.
Voilà. De manière générale, le corps, on le respecte comme quelque chose qui ne t'appartient pas. Est-ce que par exemple, tu aurais écrit avec un stylo sur cette table? Non, ça ne m'appartient pas, donc je n'écris pas dessus. Donc je n'écris pas. C'est une image générale. Et ça, c'est écrit en Shulchan Aruch, que le corps ne nous appartient pas. Alors, justement, c'est pour ça que comme le corps ne nous appartient pas, d'un autre côté, il ne nous appartient pas, mais Dieu nous l'a mis en dépôt. Et quand on donne un objet en dépôt, je dois le garder. D'accord? Par exemple, quand j'ai un objet en dépôt, il faut m'assurer qu'il va bien. C'est pour ça que j'ai la mitzvah d'entretenir mon corps. Parce que d'un autre côté, dire de toutes les façons, il m'appartient pas, alors j'en ai rien à faire. Non, ça marche pas comme ça. Il m'appartient pas, ça veut dire que je peux pas faire ce que je veux avec. Mais Dieu me demande de l'entretenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui veut dire ici le Baal Shem Tov, c'est qu'on n'est pas en train de dire ici, Chas Veshalom, qu'il faut casser le corps, qu'il faut briser le corps. C'est pas du tout ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut nous dire ici, c'est que dans la phase B, il faut essayer de se sanctifier dans ce qui t'est permis. On va donner des exemples, parce que je suis conscient que c'est un peu abstrait maintenant. On n'est pas encore vraiment rentré dans les détails. Ah! C'est là qu'on va commencer à rentrer dans les détails. Mishéou, besolele, bassar, besov, eyaïn. Imaginons une personne qui est zolele, bassar. Alors, je sais pas comment on peut traduire ça littéralement, mais c'est les gens, voilà, comment traduire ici littéralement? Zolele, bassar, excuse-moi.
Comme de la viande.
Alors, ceux qui dévorent de la viande et boivent du vin avec avidité. D'accord? Donc, un glouton. C'est-à-dire une personne, mais c'est du vin cachère. La viande cachère.
Comme un alcoolique et qui boue.
Voilà. Un alcoolique, mais du vin cachère. Ou bien un glouton. Le bonhomme, il est là. Dès qu'il a un choix de viande au restaurant, tu le reconnais plus. C'est fini. Et celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Les malotes, t'as avot, gouffo, venafcho, abéamit. Et que du coup, il le fait pas pour Dieu. Il fera peut-être la bracha, parce que c'est un juif religieux. Mais finalement, pourquoi il le fait? Il le fait pour le plaisir de son corps. Est-ce que c'est à source qu'il a fait? Non, il n'y a aucune interdiction. Personne ne peut rien lui dire pour ça. Il a mangé cachère. Mais où est le problème ici? Le problème, c'est qu'il a fait ça uniquement pour son plaisir. Et alors? Shehu, Prinat, Yesod, Amaï, Merba, Yesodot, Araim, Sheba. Vous vous rappelez ce qui était là au premier chapitre? On avait expliqué dans le premier chapitre du Tanya que nous avons quatre composantes dans notre corps. Et une des composantes, c'est quoi? C'est Maïm, c'est l'eau. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est le symbole de la recherche des plaisirs qui est chez l'homme. Et que la recherche des plaisirs peut tuer quelqu'un. On voit, il y a une Mishnah de Pirkei Avot qui dit « Akin'a ve'atahava ve'akavod ». Il y a trois choses qui peuvent rendre fou une personne et qui peuvent le pousser à faire des choses que lui-même n'est pas d'accord de ce qu'il fait. C'est quoi les trois choses? La jalousie, la recherche des plaisirs et les honneurs. Ces trois choses-là. Donc la ta'ava, le plaisir, ça veut dire qu'après, à force de chercher les plaisirs, il n'y a plus de fin après. On s'arrête plus, il n'y a plus de fin. Et qu'après un certain moment, il faut savoir mettre le frein. Je parle pas de régime ici, je parle de mettre le frein pour dire stop, calme-toi, sanctifie-toi un petit peu. D'après le Ramban, Nachmanide, non seulement que c'est une recommandation de la Torah, mais c'est même une mitzvah positive de la Torah. C'est une mitzvah positive de la Torah que la Torah nous dit sanctifie-toi dans ce qui t'est permis, parce que c'est écrit comme ça. C'est écrit dans la Parasha Kedoshim, c'est écrit Vehit Kadishtem, vous deviendrez saints. Alors, Nachmanide, pose la question, il dit, mais est-ce qu'une personne peut devenir saint? Ça veut dire quoi devenir saint? Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ça veut dire quoi devenir saint? Ça veut dire sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Ça veut dire même ce qui t'est permis, tu dois essayer de te poser la question, comment je peux mieux le faire? Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je dors Shabbat après-midi, je vais me poser la question, comment je vais dormir un peu moins pour faire plus servir de Shabbat Kodesh? J'ai un repas de Shabbat? Il n'y a pas de problème, ce repas c'est un repas de Shabbat. Je vais me poser la question, est-ce que peut-être, au lieu de me concentrer tout le repas et de parler que de ça, comment était la dafina, comment était la pkeila, est-ce que le poisson était réussi, est-ce que les chalot étaient réussis, combien de salades y avait, laquelle on a aimé, laquelle on n'a pas aimé, il y a des gens, tout le repas ils parlent de ça, c'est cachère, il n'y a pas de problème. Mais peut-être, il faudrait essayer peut-être un petit peu, et ça c'est à la portée de chacun, hein, de se sanctifier dans ce qui t'est permis, ça veut dire essayer par exemple même 5 minutes de répéter un Dvar Torah, de demander aux enfants de raconter la paracha Shabbat à table. C'est une manière de dire que je me suis sanctifié dans ce qui m'est permis. Si je l'ai pas fait, j'ai pas fait l'interdit, il y a pas de problème. J'ai mangé kasher, c'était le repas de Shabbat, j'ai fait la mitzvah. Mais c'est ça ce qu'on dit quand on dit sanctifier dans ce qui m'est permis. Et dans ce que l'Admor Hazaken va expliquer dans la suite, c'est qu'en vérité, ça, c'est le challenge de toute la vie. Dans toute la vie, c'est plein de choses comme ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que des choses comme ça que c'est des choses permises, mais que bon, on peut toujours s'améliorer, le faire un peu plus pour un Kadosh Baruch Hu et moins pour sa personne. On va donner encore des exemples. Donc, iné allié des e. Sheba donc chez Mimenu Midatadava, inalidese, yoret chayut abasa vayain shebekirbo, venichla leficha beragamur shebeshalosh klipotatmeot. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une personne va manger uniquement par plaisir, par gloutonnerie, j'ai envie de dire même, par gloutonnerie, et des fois, ça peut tous nous arriver. Gloutonnerie. Je regarde le bonhomme quand il a la viande qui arrive, quand il a la glace qui arrive devant. Il faut voir les yeux, d'accord? Les yeux, on dirait que c'est pas ce qu'il a trouvé, il a découvert la lune. Alors.
Faut voir les dents.
Les dents? Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que temporairement, l'énergie que j'ai récupérée en prenant cet aliment va descendre dans les forces du mal. Ça veut dire qu'elle ne monte pas vers la Kdoucha. Parce que je l'ai fait par plaisir, uniquement par plaisir. Et ça, c'est animal, ça, le plaisir. Mais temporairement. Pourquoi temporairement? Parce que c'est une nourriture cachère. C'est pas une nourriture qui est non cachère.
Donc ça remonte automatiquement.
Alors, attends, on va voir. Donc temporairement, ça va être dans les forces du mal. Vegufo naasel em levush merkava. Et donc ça veut dire que mon corps va devenir un vêtement. Ça veut dire que du coup mon corps va devenir un habitacle pour ces différentes forces qui vont avoir en moi, des forces qui sont pas positives. En d'autres termes, pour être plus clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui va manger de la viande cachère comme un glouton, eh ben il va devenir glouton. Et donc ça va le rendre glouton. Et à cause de quoi il est devenu glouton? Eh ben à cause de cette viande qui était cachère. Il va devenir glouton. Et donc une personne qui est glouton, eh ben peut-être qu'avec le temps, d'accord, il va commencer à vouloir faire d'autres bêtises. Parce que à cause de quoi tout ça? À cause de la nourriture qui était cachère. Est-ce que ça veut dire que quand il a mangé cette nourriture cachère, il a fait un interdit? Non. Mais temporairement, cette nourriture cachère ne lui a pas fait du bien. Elle a rendu glouton. Elle a rendu nerveux. Ou bien une personne, par exemple, imaginez, qui a que la tête à savoir est-ce que la viande était bien grillée. Et que s'il n'était pas à point, alors il va s'énerver sur sa femme, sur le serveur, sur je sais pas qui tu veux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette viande qui était cachère, cette nourriture qui était cachère, temporairement, l'a amenée dans le mal. Mais je dis bien temporairement, parce que c'est une viande qui est cachère. Très bien, bonne question. Donc le ficha, ad... Ad... Asher yashuv ha'adam v'yachazor la'avod Hashem la'avodat Hashem ul'torato. Jusqu'à quand tout ça? Il faut attendre que cette même personne, une fois qu'il a bien mangé, comme un glouton, etc., et qu'il a kiffé, etc., après, avec cette force-là, il va venir, il va ouvrir un livre, il va commencer à étudier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il va commencer à étudier, alors, cette énergie, il va remonter chez Kadosh Baruch Hu. Alors, tu vas me dire, bon, dans ce cas-là, de toutes les façons, on finira tous par étudier. Alors,
c'est-à-dire quoi? Il peut cumuler et il va décoller?
Voilà, imagine-toi, par exemple, quelqu'un, par exemple, ici, d'accord? Quelqu'un ici, qui a mangé pendant 2 heures comme un glouton de la viande, d'accord? Et après, il vient au cours de Tania. D'accord? Il va assister au cours de Tania en partie grâce à la force qu'il a pris de la viande qu'il a mangée. Tu es en train de me dire, en partie. Et qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que ça monte chez Hachem. Là, c'est bon. Bon, alors, ça veut dire que dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on veut. De toutes les façons, après, on vient à un cours et c'est fini. Tout est permis, tout est cachère. Alors, non. Le gouffon, donc, qu'il est fiche à Aya Bessar Eter Vienne Cachère. D'abord, il explique pourquoi. Étant donné que cette viande était une viande cachère. Et que ce vin était un vin cachère. Les kach yicholim la chazor ve la alotim obeshuvo la vodat Hashem. C'est pour ça que comme l'aliment en soi était cachère, le problème n'était pas dans l'aliment. Le problème était en moi. C'est moi qui a mal pris l'aliment. Donc quand je vais changer, alors l'aliment aussi va monter avec moi. Parce que le problème n'est pas dans moi. Le problème, pardon, n'est pas dans l'aliment. Il est dans moi. Ça veut dire comme ça. Je prends un aliment qui est non cachère. Le problème est chez qui? Il est chez moi ou chez l'aliment?
C'est moi qui le prends.
Le problème, il est chez l'aliment.
Oui, c'est moi.
Même si moi, je suis un tzaddik, le problème, il est chez l'aliment. L'aliment n'est pas cachère. Deux secondes. Mais le problème, l'élément problématique ici, c'est pas moi, c'est l'aliment. On va expliquer pourquoi. Parce que l'aliment, on va l'appeler assour. C'est un aliment qui est bloqué. Il n'y a rien à faire. Mais quand c'est un aliment qui est permis, l'aliment en soi, est-ce qu'il est problématique?
Non.
Pas du tout. Il est bon, l'aliment. Ce qui était problématique ici, c'est l'usage que moi, j'en ai fait. Que je l'ai mal utilisé. Je l'ai utilisé, d'accord, par gloutonnerie. Donc comme l'aliment en soi était cachère et que le problème était uniquement chez moi, quand moi je vais me changer et que je vais réussir à revenir vers Dieu, comme l'aliment était cachère, dans ce cas-là, on va tout régler le problème parce que le problème était chez moi. Vous savez, dans le langage talmudique, on appelle ça le gavra et le cheftza. Le gavra, c'est l'homme, le cheftza, c'est l'objet. Chaque élément qu'il y a dans notre vie, il faut l'analyser par rapport à l'homme et par rapport à l'objet. Ça veut dire, il y a des éléments, quand on dit qu'un élément est mauvais, qu'est-ce qui est mauvais? C'est l'élément qui est mauvais ou c'est la personne qui va le faire qui c'est pas bien ce qu'il fait? Le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire qu'à part les Averot, le vrai mal n'existe pas. Je vais vous donner un exemple. Un exemple très simple que le Rabbi ramenait à plusieurs reprises. Lorsque, dans les années 60, le rabbi avait lancé, il avait demandé à un de ses chassidim de donner des cours de Torah à la radio. D'accord ? Il a demandé de donner des cours de Torah à la radio. Pourquoi ? Il a expliqué, il avait dit, parce que c'est écrit que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour son honneur. Donc, s'il y a des ondes de radio, bah, il faut les utiliser pour diffuser le cours de Torah. Ça avait fait un tollé. Parce qu'à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui les bêtises comme la radio, mais à cette époque-là, en général, ce qu'il y avait à la radio, c'était soit des blagues, soit des protestants, etc., qui parlaient. Donc c'était la radio était utilisée pour ça. Donc il y a des gens qui ont critiqué. Et qu'est-ce que dit le rabbi? Le rabbi a dit, mais la radio en soi, c'est pas interdit. Je suis pas en train de dire qu'il faut rentrer une radio à la maison. Mais la radio en soi, c'est pas un élément qui est interdit. Seulement, la question est quel usage on va en faire? C'est-à-dire que l'objet de la radio n'est pas interdit. Le problème, c'est ce que les hommes en ont fait. Donc si on réussit à faire une bonne utilisation, dans ce cas-là, c'est pas un problème. Parce que la radio en soi n'est pas un élément interdit. Par contre, vous prenez un morceau de cochon, le morceau de cochon en soi, il est interdit. Même si moi je fais 10 000 brachot, ça changera rien. C'est pour ça qu'il explique ici. Quand la personne a mangé de la viande cachère comme un glouton, comme l'objet était cachère, mais que c'est seulement l'homme qui a mangé, qui a eu un problème et qui a mangé comme un glouton, quand cet homme va faire teshuva et qu'il va revenir vers Dieu, alors dans ce cas-là, il va revenir. Et l'aliment aussi, l'énergie de l'aliment va revenir chez Hachem. Pourquoi? Il dit « chez Zehu Lachon Eter Umuta ». Voilà, je vous avais promis qu'on allait en parler cette semaine. C'est ici. C'est ça, le mot « Eter » et « Mutar ». On voit que dans le langage de la Torah, quand on veut dire que quelque chose est permis, comment on dit? On dit « Mutar ». Mutar, ça veut dire « permis ».« Eter », »,« Mutar ». Quel rapport entre moutard et permis? Moutard ne veut pas dire permis. Moutard, littéralement, ça veut dire délié. Ça veut dire non enchaîné, délié. D'accord? Alors pourquoi on l'appelle moutard? Parce qu'en vérité, quand on dit qu'un élément est moutard, ça veut dire que c'est un élément qui peut monter chez Akadosh Baruch Hu. C'est un élément qui n'est pas bridé, qui peut monter chez Akadosh Baruch Hu. Le problème peut être chez moi, que moi je vais mal l'utiliser. Mais quand on dit qu'un élément est assour, assour ça veut dire quoi en hébreu? Assour, ça veut dire enchaîné, qu'il est bloqué, il est bridé. Tu peux faire quoi? Enchaîné, ça veut dire que c'est comme s'il y a une chaîne autour de lui, que même s'il va faire 10 000 cavanotes, il est enchaîné, il ne peut pas monter chez Hachem. L'énergie de cet aliment ne peut pas monter chez Hachem. Il n'y a rien à faire. Ça, assour et moutard. Assour, c'est enchaîné. Même la traduction littérale de assour, c'est emprisonné. Comment on dit en hébreu une prison? Bet assourim, bet assoar, c'est une prison. Il est emprisonné, il est enchaîné. Alors que moutard, c'est quoi? C'est délié. Délié. Donc, kelomar, ça veut dire, deux secondes, je termine avec ça. She'eino kashur ve'asur bidach etzonim she'lo yuchal lachazor ve'alot lachem. Ça veut dire quoi? Étant donné que l'aliment que j'ai mangé est un aliment qui était cachère. Alors, en passant, est-ce que vous savez ce que veut dire cachère? Ça, j'ai pas dit ça aussi. C'est quoi cachère? Non? Traduction littérale de cachère. Non? Non?
Kacher.
C'est quoi la traduction littérale de kacher?
Non, c'est avec un
coup. Traduction littérale de kacher, c'est apte. Apte. Il a une aptitude. Quelle aptitude? Aptitude, d'accord, à monter chez Akadosh Baruch Hu. C'est ça, kacher. Quand un élément est kacher, ça veut dire que il est moutard, donc il est délié, et il est apte. Ça veut dire que si tu fais le bon travail dessus, il pourra monter chez Hachem. Mais encore faut-il faire le bon travail. C'est-à-dire, si je le mange avec la gloutonnerie, ben, il va rien se passer avec cet aliment. Il va pas monter chez Hachem. L'énergie de cet aliment ne va pas monter chez Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la définition de kasher et de moutard. Alors, je reviens maintenant à la question que tu as posée tout à l'heure, David. Mais puisqu'on a dit que quand je mange un aliment kasher, mais je le mange par gloutonnerie, et qu'après je viens à un cours de Torah, qu'est-ce qui se passe, David?
Toute l'énergie remonte.
Il remonte chez Hachem. Alors, dans ce cas-là, vas-y, y a pas de problème. On va aller passer 10 heures dans la gloutonnerie, et après on vient 5 minutes à un cours de Torah, et tout va remonter. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Serge? Mais si ça marche, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Il dit ce qui se passe, c'est que même si c'est un aliment cachère, et que tu vas le faire remonter chez Hachem, mais il reste des traces. Il restera des traces. Ça veut dire comme ça. Quelqu'un qui a mangé comme un glouton, quelqu'un qui est rentré chez lui à la maison entre midi et 2, il est rentré Shabbat après-midi, il a mangé comme un glouton. Maintenant, après son repas, il va venir étudier la Torah. Il a mangé comme un glouton. D'accord? Même si, étant donné qu'il a étudié la Torah après, qu'est-ce qui va se passer? On dit que l'énergie va monter chez Hachem. Oui. Mais le fait d'avoir mangé comme un glouton, ça laisse des traces dans la personne. Ça laisse des traces dans le Yetzer, ça laisse des traces de mal dans le Yetzer. Ça laisse des traces mauvaises dans la personne. Parce que tout ce qu'on fait laisse des traces en nous. Chaque pensée qu'on a, chaque parole qu'on a, chaque mot qu'on a, laisse des traces. C'est pour ça qu'on va. Et là, donc, du coup, on touche au sujet de la teshuvah. Par exemple, imaginez une personne qui a dit un mot grossier. Il s'est excusé. Mais ça y est, il a dit un mot grossier, il s'est excusé. D'accord ? Mais il l'a dit, il a laissé une trace. Il y a une trace dans son âme du fait qu'on a dit un mot grossier. Quelque part, on a cassé quelque chose. Alors, on va réparer, mais un objet réparé ne sera jamais comme il était initialement. C'est impossible. Il sera peut-être plus fort, moins fort, mais il sera jamais comme il était avant. C'est impossible. Il sera différent. Parce qu'un objet réparé, c'est comme l'exemple qu'on ramène souvent, c'est l'exemple qu'amène la Gemara. Elle dit, c'est comme une barre de fer que tu prends et que tu tords et qu'après tu la redresses. Elle sera jamais aussi droite qu'avant qu'on la tente. Impossible.
Là, on achète une autre barre de fer.
Pourquoi ? Parce que ça laisse des traces. Et c'est pour ça, il dit ici, c'est à cause de ces traces-là que quand on part de ce monde-ci, je rentrerai pas dans les détails, parce que sinon...
Physiquement, elle a perdu de sa puissance, la barre de fer.
Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, 100%, bien sûr. Parce qu'elle est plus... Elle a perdu la rigidité.
Tu rachètes du neuf.
Quoi ? Oui, mais le problème, c'est que notre corps, on peut pas le changer.
Comment ça, on peut pas le changer, notre corps ?
Tu changes pas, il est là.
Il a teshuva.
Ah non ? Ah, teshuva, c'est autre chose, on va en parler. Donc, juste deux secondes, je termine l'idée. Ça veut dire qu'on laisse des traces. Chaque pensée qu'on a eue, chaque parole qu'on a eue, chaque chose qu'on a eue, chaque chose qu'on a fait, ça laisse des traces en la personne. Ça peut être même une pensée, même un mot grossier, quelque chose qu'on a dit, même une colère, ça laisse des traces. Et c'est pour ça qu'on doit s'efforcer un maximum. Alors seulement là, on touche au problème de la teshuva. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une personne peut faire teshuva jusqu'à tout effacer et laisser aucune trace ? Ça, c'est une grande question. Pour l'instant, a priori, non. On laisse des traces, mais on va apprendre à vivre avec. C'est comme une personne qui a mangé du poison. D'accord ? Ça laisse des traces dans son corps. Il n'y a rien à faire. Même s'il prend un antidote et que les médecins vont le sauver, mais ça laisse des traces. Son corps ne sera jamais comme avant. Jamais. Il va rester en vie, mais son corps ne sera pas comme avant. Parce que ça laisse des traces. Alors, c'est pour ça qu'il dit que quand on va partir de ce monde, une des phases du Gehinnom, je ne rentre pas trop dans les détails parce que vous avez encore de la nourriture devant vous, c'est Riboul Takever. C'est le nettoyage du corps. D'accord ? C'est le karcher, le pressing. On va devoir nous nettoyer parce que, avec le temps, il y a de la crasse qui est venue. Avec toutes les bêtises qu'on a dit, toutes les bêtises qu'on a fait. Même si à chaque fois on nettoie, d'accord? Mais à chaque fois, l'exemple qu'amène le Zohar est très simple. Elle dit une personne qui a touché quelque chose de sale, même s'il se nettoie, quelque part il reste toujours quelque chose de sale. Vous savez c'est quoi la preuve? Regardez. Les gens qui vont au hammam. Ils découvrent des couches. Mais d'où ils sortent ces couches de saleté? Des couches ils sortent. Pourtant, le bonhomme, il se douche tous les jours, d'accord ? Et quand il touche, c'est propre, il n'y a rien. Et pourtant, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois que quand tu passes au hammam, tu peux passer une fois, deux fois, trois fois, chaque fois que tu passeras, il y aura encore des couches. Je vous rassure, j'ai jamais été, mais on m'a raconté. Chaque fois que tu repasseras, il y aura encore des couches, encore des couches, encore des couches. C'est ça ? On est
ouais,
d'accord ?
Ouais,
bon. Et il sort la clé. Et il vous en sort. Alors, d'où ça sort ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si on croit qu'on a nettoyé, il reste toujours des traces. C'est la même chose dans notre âme.
Elle rentre à l'intérieur.
C'est la même chose dans notre âme. Même si on croit que on a fait teshuva et que ça y est maintenant, j'ai laissé la gloutonnerie, j'ai avancé, ça laisse des traces. Et c'est pour ça qu'en vérité, la teshuva ne pourra jamais tout effacer. Sauf si il y a une teshuva particulière, comme on verra dans la suite du chapitre. Mais de base, normalement, il laisse toujours des traces. Et c'est pour ça que la première phase qu'il y a quand on part de ce monti, c'est une phase dans laquelle le corps est nettoyé. Alors, physiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, littéralement, ça veut dire, on dit qu'il y a des anges qui frappent le corps et qui nettoient le corps et qui le secouent pour enlever la poussière. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, en tout cas, c'est ce qui était comme
le tapis.
Comme un tapis, oui. Le tapis, tu peux le taper autant que tu veux, il y aura toujours de la crasse.
Bah oui.
Ok.
Pardon,
vas-y.
Ça fait c'est
le fait qu'il disparaît. J'ai pas compris.
C'est le fait qu'il disparaît.
Qu'est-ce qui est. J'ai pas compris.
Le corps.
Oui.
Disparaît.
Ah non, c'est pas de ça qu'on parle. Non. Parce que Riboul Takever, c'est quelque chose de spirituel. C'est qu'on nettoie la Neshama. Il faut la secouer.
Le
gouf, d'accord. Bien sûr, mais ça veut dire la souffrance est pour la Neshama. C'est la Neshama, elle sent qu'on la secoue. Sinon, le gouf, il n'en a rien à faire.
Il est détaché de la Neshama du corps.
Pas du tout.
C'est-à-dire que nous, on sent rien.
Il y a une partie de la Neshama qui reste toujours attachée au corps. C'est la raison pour laquelle on va dans un cimetière. On va au cimetière. Il y a une partie de la Neshama qui reste toujours attachée avec le corps en bas.
Combien ?
Une partie, c'est écrit une partie.
Tout le temps.
Obligé. Sinon, pourquoi on va au cimetière ?
Attends.
S'il n'y a plus que le corps et que la Neshama est partie, à quoi sert de le cimetière ?
Ad vitam aeternam.
Comme là, je
sais pas. Ad vitam aeternam, il y a une partie de la Neshama qui reste liée au corps.
Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est en dépôt ad vitam aeternam, une partie
non,
de la
neshama. Mais parce que chaque, après, la même, après une neshama peut avoir plusieurs particules. Mais il y a une partie de la neshama qui est 100% qui reste attachée.
Et quand le corps il se décompose, il n'y a plus rien.
Il reste toujours une partie du corps. Toujours.
Il reste les os.
Il n'y a rien.
Non, mais au bout de... non,
rien de se crée, d'accord, rien de se perd.
Tout se transforme.
Tout se transforme. Lavoisier.
Ah ouais.
En plus, à part ça, on dit qu'il reste toujours un os qu'on appelle le loose. Mais quoi qu'il en soit, même s'il se décompose en terre, il se décompose, mais il est là.
Il est présent.
Parce que se décomposer, ça ne veut pas dire qu'il disparaît. Tu vois bien, en français, on dit décomposer. Ça veut dire qu'il était composé, et il s'est décomposé, mais il est là. Il n'a pas disparu. Il ne peut pas disparaître. Rien ne peut disparaître dans le monde, ça n'existe pas. La disparition n'existe pas.
C'est brûlé.
C'est ? Ça ne change pas ? Même s'il a été brûlé, d'accord, il n'y a rien qui disparaît. Qu'est-ce qui se passe quand on brûle quelque chose ? Quand on brûle quelque chose, on dit que dans chaque élément, il y a quatre éléments. Il y a Esh, Ruach, Maïm, Afar. Il y a le feu, le vent, l'eau et la terre. Si je brûle un morceau de bois, par exemple, qu'est-ce qui va se passer ? J'avais un morceau de bois qui pesait 10 kilos, je vais le brûler, je vais récupérer je ne sais pas combien de grammes de cendres. Où sont passés les 10 kilos ? Très simple. D'abord, il y avait de l'humidité. L'humidité, c'est de l'eau. Donc cette eau, elle va partir, elle va s'évaporer avec le feu. Vous avez, donc ça, c'est le feu. Vous avez le vent. Il y a du vent qui va souffler. Donc le côté vent qu'il y a dans la chose, il va partir. L'élément vent va partir avec le vent qui va souffler. Vous avez le Esh, Ruach, Maïm. Donc on a dit Esh, le feu. Le feu, on l'a déjà dit. L'eau, c'est l'évaporation. Le Af, donc Ruach, le vent. Et il nous reste Afar. Afar, c'est la terre qui va rester. Mais rien n'a disparu. Ça s'est seulement décomposé.
D'accord.
Décomposé. Après, un, il va aller là, l'autre, il va aller là, il n'y a pas de problème. Mais tout est là. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui va expliquer ici, je reviens à notre cours, ce qui va expliquer ici la Gemara Zaken, c'est que lorsqu'une personne a mangé par exemple par gloutonnerie, mais c'est un exemple mangé par gloutonnerie, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait par pur plaisir et que pour le plaisir et pour la recherche des plaisirs, même, alors après, si je vais avoir une bonne kavana, eh ben, ça reviendra chez Hachem, mais toutes ces gloutonneries que j'ai eues, ça laisse des traces. C'est pour ça que chez les chassidim, on faisait très très attention à ça, à ne pas trop avoir la tête dans le matériel. Pas interdire, mais pas trop avoir la tête dans le matériel. Alors, par exemple, un exemple qui viendra plus tard, c'est que les chassidim avaient l'habitude, avant de manger, ce qui est écrit dans la Gemara, de ne pas manger tout de suite.
Ouais, de marquer un temps.
Marquer un temps. Tu viens, on t'a servi, le temps.
Ah. Oui, j'arrive. Non, je vais refroidir.
On t'entend pas manger.
D'accord. Ils attendaient un petit peu. Pourquoi ils vont attendre un petit peu ? Parce que c'est une manière de dire à ton corps, tu vas pas manger. Quand ils sentent que, quand ils sentent qu'ils ont un instinct animal et qu'il est en train de les pousser comme ça et qu'ils se reconnaissent plus, ils disent, j'attends un petit peu. Je suis en train de me calmer, je vais manger. D'ailleurs, en passant, vous savez que le Rambam, il dit dans son commentaire, il dit que manger comme un glouton, mis à part que c'est mauvais pour l'âme, c'est même mauvais pour le corps.
C'est mauvais pour l'estomac.
C'est très mauvais pour l'estomac. Manger très vite, comme un glouton, c'est très mauvais, ça détruit l'estomac.
Après, j'ai mal au ventre.
D'accord? Bien sûr. On mange trop vite et c'est mauvais pour l'estomac.
Après, tu peux manger doucement et manger énormément.
Exactement. Et on peut, et au contraire, on peut manger, on peut manger doucement et manger comme un glouton. Et le bonhomme, il est là, oh là là, quelle viande.
C'est du raffinement, ça. C'est pas de la raffinement.
Vechen, il en est de même.
Pardon,
mais... Ah, Hayou, oui,
c'est bon.
Tu as parlé tout à l'heure de l'élément, selon qu'il est assou
ou moutard.
Et de la même manière que tu as dit que la gloutonnerie pouvait laisser une trace,
oui,
alors que l'élément a été permis,
oui,
dans un élément qui n'est pas permis, donc quelque chose qui n'est pas caché, on peut se dire que l'énergie ne va pas monter. Ça, c'est un fait.
Ça, c'est sûr. Oui.
D'accord. Mais on peut se dire, bah, c'est pas monté, je l'ai mangé, maintenant je passerai à autre chose.
Ah ben non, parce que
ça laisse une trace.
Tout laisse une trace. Mais dans la nourriture non cachère, c'est encore pire. Parce que c'est pas qu'une trace qui reste. C'est tout l'aliment qui reste en moi. C'est ma chair, ça fait partie de ma chair.
C'est ça. Tu intègres quelque chose qui est...
D'accord ?
C'est, bon. C'est quoi le but de l'existence d'un élément à soi ? S'il ne monte pas chez HM, il ne sert à rien.
Son but, c'est de nous éprouver.
Les plaisirs du monde.
Voilà.
Aïe, aïe, aïe.
Vechen, pareil. On va donner encore d'autres exemples.
Pour nous énerver.
Achayut, chez Betipot, Zera.
Pour nous énerver.
Shigatsu, Mimenu, Betava, Behemit. Il en est de même. D'accord ? Quand une personne a eu des relations... mais qu'il a fait que par pur plaisir. Chez Lokidesh Atmo, on ne va pas trop développer ça aujourd'hui, chez Lokidesh Atmo, qu'il n'a pas eu de kavana, d'accord, de le faire pour la mitzvah, mais qu'il l'a fait par plaisir. Donc qu'est-ce qu'on a compris ce qu'il a dit ici ? C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont permises. Non ? Non, je te dis. Donc il y a des choses qui sont permises, d'accord ? Il y a des choses qui sont permises, mais... On peut servir le Chaïm, viens un petit peu, viens faire une petite pause de Chaïm.
Allez,
en fait.
Non, j'ai pas sauté.
Je pose question.
Voilà. Voilà.
De Corbet.
Pour la bonne cause.
J'ai pas encore lu ça. J'ai pas encore lu. Non, pas encore lu.
On est là, non.
Je suis à ma chaîne, Ken. Je viens de finir ça. Allez, David, on fait une petite tournée de Chaïm.
J'y vais.
Et on l'apprécie d'abord. Hein.
Quelle phrase? Ah bon? Mais si, il est là.
Ah, parce que c'est entre parenthèses chez moi.
Il y a du cochon.
Regarde, c'est en haut de la page.
Il y a du
cochon.
Entre parenthèses chez moi.
Ah ouais.
Il n'y a plus de coca.
Bizarre. Ma chaîne Ken. Allez, Chevril Chaim, Chaim. Azak Baruch. Allez, Shushan Purim. La Simcha.
D'accord. C'est pas ça, j'ai un gros rhume, je peux pas te refiler mon gros rhume.
Ah, c'était le gros pourri, ma chouchane.
Allez. Pourri, ma chouchane.
Ouais,
David, tu aimes un peu quoi.
Alors, on va s'unir avec les habitants de Jérusalem. À Jérusalem, ils sont en plein micheté. C'est là-bas que ça se passe.
Maintenant,
ah, c'est aujourd'hui.
C'est maintenant.
Ils vont même pas voir qu'il y a un bus, il y a un père.
J'ai un père. Allez.
Allez, Chévry, on va dire les Chaïm. On va penser à nos amis. Hiros et le mien, comment ils appellent ceux qui habitent à Yerushalayim?
Mais non, les Hiros.
Non, il y a un mot en français. Allez, les Chaïm.
Les
Yerushalamites.
Non, les
Yerushalamites.
Les
Yerushalamites,
non?
Ouais, voilà, un truc
bidon. Bah, on croit
que
c'est
c'est de l'eau.
Allez, on y va. Machen Ken. Machen Ken, Machalot Asurot ou Biot Asurot. Lorsqu'il s'agit de relations interdites ou bien de nourriture interdite, Chehen, Michaloch, Klipot, Atmeot, les Gamrés, qui font partie des trois Klipot, Atmeot entièrement. Ça veut dire comme ça. Quand il s'agit d'un aliment non cachère. Alors là, dans ce cas-là, si on l'appelle assour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que em assourim ukshurim bide achitsonim leolam. Ils sont interdits et donc ils sont pris en captivité parce que assour, on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire emprisonné. Bide achitsonim par les forces du mal, leolam à jamais. Ça veut dire, comme on l'a expliqué plusieurs fois, je peux faire la meilleure bracha que je veux sur un morceau de cochon, ça sert à rien. Il est bloqué, il est bridé, il est verrouillé. Et ils ne pourront pas monter de l'endroit où ils sont, jusqu'à ce que leur jour arrivera, quand ma chère va venir. Veillez-vous là à ma vête la netzar, ça veut dire que la mort sera effacée à jamais. Que Moshe Katouf, comme c'est écrit, et roach atuma avir mina aretz, Dieu y dit, lorsque ma chère viendra, j'enlèverai l'impureté de la terre. Quel rapport entre l'impureté et la mort? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, l'homme, quand il a été créé, il a été conçu pour vivre ad vitam aeternam. Adam Arishon, lorsqu'il a été créé, la mort ne devait pas exister. L'homme a été créé comme une créature éternelle. D'accord? Comme le soleil. Prenez le soleil, par exemple. Le soleil est une créature éternelle. C'est une créature qui n'est pas éternelle comme nous, les hommes, qu'on est éternel dans l'espèce. Éternel dans l'objet, physiquement. De la même manière que le soleil, d'accord, il est là et c'est le même soleil depuis des millénaires, et bien de la même manière, l'homme, à la base, a été conçu pour vivre autant de temps qu'il faut à vitam aeternam.
Le soleil, il
a une date d'apparition. C'est pas une créature, le soleil.
Aucune date
d'apparition. Le soleil, c'est pas une créature.
Aujourd'hui, on dit que il a une date de péremption. Genre, dans 5 milliards d'années, il est exposé.
Pour savoir la date de péremption, il faut savoir quand il est né.
Tu mets 5 milliards d'années de vie.
Alors, en tout cas, le temps que Dieu a décidé dans les 6000 ans, il sera là. D'accord? Alors, je continue. Rabotaï. Donc, de la même manière que le soleil a été créé pour être immortel. De la même manière, alors bien sûr qu'il vieillit, le soleil vieillit, il perd des particules. Hein, on est d'accord que même scientifiquement, et c'est écrit d'ailleurs dans le Zohar, que le soleil, deux secondes. Immortel, ça veut dire qu'il peut perdre des particules, il peut vieillir, mais il est là, c'est le même. De la même manière, l'homme, à la base, a été créé pour être immortel. À cause de quoi l'homme est devenu mortel et à cause de quoi on connaît la mort? Parce que on a fauté. Adam a fauté et lorsqu'il a fauté, Dieu a dit dans ce cas-là, la faute t'a amené l'impureté. Et l'impureté, du coup, ça fait que la personne n'est plus immortelle. Pourquoi? Parce que la Kedusha, c'est la vie. Et la vie, c'est immortel. C'est tout. La Kedusha est égale à la vie, l'impureté est égale à la mort. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, l'homme a été créé comme une créature pure, comme une créature kadosh. Et normalement, l'homme devrait être immortel. À cause de la faute qu'on a fait, on est devenu mortel. Lorsque Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va effacer toutes les fautes. Il dit que toutes les fautes seront effacées et qu'il enlèvera l'esprit d'impureté de la terre. Comme il n'y a plus d'impureté, il n'y a plus de mortalité, puisque l'impureté et la mortalité sont liées de pair. Pourquoi il explique ça ici? Il dit qu'aujourd'hui, nous avons des choses qui sont interdites. Pourquoi ils sont interdites? Certains aliments sont interdits parce qu'ils sont bloqués, ils sont verrouillés. Quand ils seront déverrouillés? Quand Mashiach va venir et que la notion d'impureté n'existera plus? La notion d'impureté, c'est-à-dire ça c'est impur, ça c'est contraire à la vie, ça n'existera plus. Tout ce qui aura autour de nous sera pur. Et tu auras l'embarras du choix. Puisqu'il n'y a plus la notion d'impureté, donc il n'y a plus rien qui est bloqué. Il peut y avoir des éléments qui sont plus faciles que d'autres, plus accessibles que d'autres, mais rien peut être interdit puisque l'impureté n'existe plus. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un aliment est interdit et l'autre n'est pas interdit? C'est que un est impur, l'autre n'est pas impur. Un est bloqué, l'autre n'est pas bloqué. Mais quand ma chair va venir, qu'on va tout débrider et qu'on dit qu'il n'y a plus rien qui est bloqué maintenant, puisque l'impureté n'existe plus, alors automatiquement, puisque l'impureté n'existe plus, et bien automatiquement, la mortalité arrête et automatiquement, tout peut être amené chez Kadosh Baruch Hu. Donc ce même cochon, ce même morceau de cochon qui n'était pas cachère, il devient cachère.
Le cochon, donc ma chair va retirer l'impureté. Le cochon, il est impur. Donc, c'est-à-dire que Mashiach, peut-être, retirer le cochon, il n'y a plus de cochon.
Non, je n'ai pas dit ça.
Vas-y.
Ça veut dire quoi, impur?
Oui, non, mais ça veut... il a raison.
Je t'ai expliqué, c'était très simple. Très simple. Quand on dit qu'il est impur, ça veut dire que ton corps n'est pas conçu pour le prendre et pour le faire monter chez HM. Mais si maintenant, on donne un corps de Superman et que ce corps-là, il peut prendre et il ne bronche pas, alors tu peux prendre, il n'y a pas de problème.
Il reste toujours sale.
Mais non, pas du tout. Il n'est pas sale. C'est ça, encore une fois. Les gens traduisent impur par sale. Impur, c'est pas sale. Impur, c'est inaccessible. Tu comprends? Comme lorsqu'on dit qu'une personne est tamée, une personne est impure. Ça veut pas dire qu'il est sale. Un homme ou une femme, etc. Ça veut pas dire qu'il est sale. Ça veut dire qu'il est inaccessible. C'est tout. Et lorsqu'il sera, donc pareil, lorsqu'on parle de la mort, par exemple, une personne qui est morte, qui a l'impureté, ça veut dire qu'il est dans un stade que, par rapport à nous les hommes, on peut plus communiquer avec comme avant. Donc, il y a des différences. Quand on rentre dans un cimetière, il faut se laver les mains après, oui, etc. Mais quand ma chère va venir, il n'y aura plus cette notion-là, parce que la mort n'existe plus. Pourquoi la mort n'existe plus? Parce que la notion d'impureté n'existe plus. Or, impureté et mortalité, c'est la même chose. Impureté, interdiction, mortalité, c'est la même chose. Ça représente l'inaccessible. Une personne qui est décédée, c'est une personne qui est inaccessible. C'est la même chose. C'est les choses qui ne sont pas accessibles.
C'est la mort qui commet d'accord l'impureté.
Bien sûr. Lorsqu'une personne est décédée, ça veut dire quoi qu'il est décédé? Ça veut dire que je lui parle, je l'entends pas, qu'il me répond. J'ai la Emouna qui est là, qui m'entend, mais il peut pas me répondre. Et je l'entends pas quand il me parle. Ça veut dire que c'est l'inaccessible. Donc c'est la même chose. La mort, l'impureté, etc. Ça veut pas dire qu'un mort est quelque chose de répugnant. C'est pas ça ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'il y a des choses qui sont inaccessibles, mais qu'un jour seront accessibles. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de dire que lorsque ma chair viendra, eh ben on pourra manger certains aliments et on va retrouver nos êtres chers. C'est pas du pipeau ce qu'on raconte. C'est que tout simplement on va enlever le bridage qui était là. Il y avait un bridage qui nous bloquait et il va être enlevé. Quand vous avez des tzadikim, par exemple, les tzadikim ont un petit peu de ça. Les tzadikim, retenez parmi les tzadikim qui ont communiqué avec des neshamot. Il dit, oui, tu sais, j'ai vu, Dieu préserve, j'ai vu ton père, il m'est venu me voir, il m'a dit ça et ça. Et tu as dit, ouais, tu l'as vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Parce que, en vérité, il faut comprendre que quand on dit qu'une personne part de ce monde, personne part de ce monde. Ça n'existe pas. Seulement, il rentre dans une nouvelle dimension. Il faut bien comprendre ça. Les gens, quand ils s'imaginent le Gan Eden, d'accord, le Gan Eden comme le Gan Eden comme le monde futur, etc. Ils s'imaginent que voilà, après l'atmosphère, d'accord, on va envoyer des sondes et on va trouver, hop, à un moment, tu vois, il y a un endroit qui s'appelle, il y a une grande porte, d'accord, et on va rentrer dans un jardin. C'est faux. Le Gan Eden n'est pas ailleurs. Le Gan Eden est ici. Et dans le monde.
Tu veux dire que les morts nous entourent?
Pas du tout. Au contraire. Seulement, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et ça, en vérité, la science nous aide beaucoup à comprendre ça. Comme j'avais dit la dernière fois, si on prenait quelqu'un il y a un siècle et on lui disait, tu sais, dans ce popcorn, Il y a des milliards d'atomes qui sont en train de se balader. Ils m'ont repris pour un fou. Je lui dis, tu sais, ils sont
enfermés.
D'accord ? Ils m'ont renfermé, ils m'ont renvoyé, ils m'ont renvoyé à la santé. Ouais, maintenant que je lui dis ça, je comprends que moi, avec mes yeux, je vois une dimension, mais avec des outils sophistiqués, on peut voir d'autres dimensions. D'accord ? Mais on est encore bridé, on est encore limité. Donc imaginez que quand on dit, quand on parle de Gan Eden, de Lamaba, etc., c'est une autre dimension qui n'est pas accessible. Donc pareil, quand on parle du cochon, même si on a tous envie de dire, oui, le cochon, on a envie de se convaincre que le cochon, c'est rose, c'est sale, il traîne dans la boue, etc. Ouais. D'accord ? C'est vrai, je dis pas que ça me dégoûte pas. Quand je vois un cochon, ça me dégoûte. Mais il faut savoir que tout est bon dans le cochon.
Exactement.
D'accord.
Et
il faut savoir pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, le cochon, c'est une dimension qui n'est pas accessible par l'homme. Et je vais vous dire plus que ça. Là, Serge, je vais te mettre le coup de marteau. Alors, écoute bien. C'est écrit que lorsque ma chair va venir, on voudra manger du cochon plus que les autres.
Ah bah c'est normal.
Pourquoi ? Parce que comme c'est un aliment qui était avant inaccessible et que c'est un élément nouveau, on aime la nouveauté. Tu comprends ?
Ouais, tu dis ça maintenant.
C'est comme un enfant. Un enfant, on va prendre un enfant, un adulte, on lui a donné un nouveau jouet, on lui a donné un nouvel iPhone, une nouvelle console, Quand c'est nouveau, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets toute la tête, tu te concentres sur la nouvelle chose. Et l'ancien, tu le mets de côté.
Ouais,
on est d'accord. Et ben, c'est la même chose qu'on va chercher à revenir. Comme on aura des nouvelles options, des nouveaux mondes qui vont s'ouvrir à nous, d'accord? Dieu va débrider les mondes. Ce monde-là, il est interdit. Tout d'un coup, tu touches partout, tu peux rentrer. Il y avait des portes qui étaient fermées. Tu touches maintenant, tu peux rentrer. Et ben, comme ces portes-là vont s'ouvrir, du coup, on va être curieux de voir ces portes-là. Et donc, ne soyez pas étonnés, c'est quand ma chère arrivera, on sera là en train de faire des repas avec du cochon.
On commence à s'ennuyer dans ce monde, ça y est, je noie de ce monde.
Il a dit des crustacés.
Quelle bénédiction tu fais ?
Pas de problème.
Quelle bénédiction tu fais ?
Le cheeseburger.
Hein ?
Bah non, ça c'est dans la Torah, le fromage et la viande.
Mais pareil.
Et la pizza au fromage au merguez, t'as pensé à ça ?
Tout ce que la Torah interdit, elle l'interdit parce que c'est inaccessible dans l'état actuel. Quand c'est assourd, c'est emprisonné, c'est enchaîné.
Donc les interdits pour mettre
Oui. Voilà. Il y a beaucoup d'interdits qui sont liés à une réalité d'avant Mashiach.
C'est le mot.
Et en réalité,
c'est marocain. Il a le droit de faire ça.
C'est pas une nouvelle Torah, Chas v'Shalom. C'est comme il y aura une partie de la réalité qui aura changé, donc il y aura des éléments qui vont changer. Parce que là, par exemple, toute notre vie est basée sur le système de la vie, la mort, d'accord ? Ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est pur, ce qui est impur. Mais lorsque ma chère arrive, tout est pur, tout est bon, tout est accessible.
Donc ça veut dire que tout le monde a la théouda ou il n'y a plus besoin de théouda ?
On peut aller au McDo.
Il va avoir du chômage.
Ça dépend, il y a toujours des niveaux.
Pour avoir du chômage. Pour avoir des pizzas et des steaks.
Il y a toujours des niveaux.
Il n'y aura plus de chômage.
David.
Oui.
Repas.
Les trois qu'une pote, c'est le mal qui est inaccessible.
Achète un autre four. Bah non, il peut faire le même four.
Ah, attends, j'ai pas fait la téchouva encore.
On ne peut pas avoir du machin. Je ne pas encore. Voilà, j'ouvre pas.
Donc, moi, je suis Katoum, comme c'est écrit. V'ed roi Khatouma Avir Minaret.
Le business, c'est relié Touma avec
l'interdiction.
Bien sûr, oui.
Adam avant la faune, il n'y avait pas de touma.
Oui.
Il y avait quand même l'interdiction de toucher à l'arbre.
Oui.
Deuxièmement, il ne pouvait pas manger d'animaux.
Mais c'est quoi l'interdiction ?
Il n'y a pas d'interdiction.
Mais c'est quoi l'interdiction ? L'interdiction, c'est le fait qu'on dit qu'un élément est inaccessible.
C'est le fait de dire...
C'est quoi l'interdiction ? Voilà.
Il n'y a pas de touma.
Donc justement, c'est quoi le point commun qu'il y a entre tous ces éléments ? L'impureté, l'interdit et la mort, c'est que les trois sont des éléments inaccessibles. Ça représente quelque chose qui n'est pas accessible. L'interdit, c'est ce que je peux pas toucher. L'impureté, c'est ce que je ne peux pas toucher aussi.
Tu expliques qu'on a pu interdire quelque chose à Adam Arishon avant la faute.
Oui, parce que Machiach n'était pas encore là.
Pardon. Avant la faute.
Oui, c'est pas un problème.
Avant la faute,
c'est qu'il y avait des éléments qui étaient inaccessibles. Oui, c'est pas un problème.
Tu ne toucheras pas jusqu'à un certain moment.
Oui.
Il fallait attendre un certain temps.
Oui.
Et à ce moment-là, il y avait accès. Oui, mais comment on peut interdire ?
Mais Machiach n'était pas là. Machiach n'était pas là. À cette époque-là, il y avait ce qui est permis, ce qui est interdit. D'ailleurs, en passant, vous savez à quel point on voit comment le Midrash est dit, comment le Yitzhara peut être très très fort. Est-ce que vous savez, les gens, ils pensent, quand on lit l'histoire, les gens pensent que l'interdiction du fruit défendu était pour toute la vie d'Adam Arishon. Les gens pensent comme ça. Alors qu'en vérité, le Midrash nous dit que c'est faux. Vous savez qu'Adam Arishon, il est né, écoutez bien, je vais vous raconter l'histoire. Adam Arishon est né dans l'après-midi du vendredi de la création. Donc, le temps qu'il est né, le temps que sa femme naisse, d'accord ? On était à 3 heures avant l'entrée de Shabbat. 3 heures. Dieu lui a donné l'interdiction. Il lui a dit, tu ne mangeras pas le fruit défendu. Le Halacha HaKadosh, il dit comme ça. Il dit, que l'interdiction était seulement jusqu'à l'entrée de Shabbat. Parce que le premier Shabbat était censé être le Shabbat du Mashiach. Et comment, Adam Arishon, l'interdiction de se retenir, c'était seulement 3 heures. 3 heures.
En 3 heures, il a réussi à faire.
C'était 3 heures. Et que pourtant, on voit que quand le Yetzer Hara est là, il t'attaque. Et Adam Arishon, du haut de son niveau, certainement qu'il avait conscience des répercussions de l'acte qu'il était en train de faire. Et comment on voit que quand le Yetzer Hara, il a décidé de t'attaquer, et bien des fois, même pour une heure, même pour une minute, il n'arrive pas à te retenir. Et quand même Adam Arishon, il n'arrive pas à se retenir. Pourtant, tu dis ça, mais qu'est-ce qu'il y a 3 heures. C'est qu'est-ce qui est 3 heures. C'est rien, 3 heures.
Une heure d'avance, c'est une heure d'aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est la même chose. C'est la même chose.
Même chose. Non, non, non. Non.
3 heures, 6 000 ans.
Adam Arishon, il est né. Non, non.
Dans le rapport, il est.
D'accord.
Hein? Quoi? La marge, elle est. 3 heures.
3 heures.
6 000 ans d'exil.
D'accord. Non, c'est pas ça.
Il est né à quel âge?
Attention, maintenant, évidemment que Akadash Baruch Hu, quelque part, a poussé Adam Arishon à faire la faute. Mais ça, j'y reviendrai plus tard.
Oulala, on a le droit de dire ça.
Alors, Kemo Shekatou, comme c'est écrit, Ved Ruach Hatouma, honnêtement, quand vous regardez les détails de l'histoire, c'est évident qu'il les a poussés. Kemo Shekatou, comme c'est écrit, Ved Ruach Hatouma Virminaret. Donc, conclusion, où j'en suis? On a expliqué que lorsqu'une personne mange un aliment, rabotaille, lorsqu'une personne mange un aliment non cachère, là, s'il mange un aliment non cachère, là, dans ce cas-là, d'accord, c'est fini, ça reste bloqué en lui jusqu'à ce que Mashiach arrive. S'il mange un aliment cachère, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? S'il mange un aliment cachère, mais il mange par gloutonnerie, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il va étudier la Torah après, ça se débloque et ça remonte chez Akadosh Baruch Hu, mais il reste une trace qui sera enlevée. Mais si c'est un aliment non cachère, qu'est-ce qu'on a dit? Lui, il reste bloqué, il reste attaché au corps jusqu'à que Mashiach arrive. Ça, c'est la première option. Deuxième option. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui qui a mangé pas cachère et toute sa vie, il est bridé avec ça, il est bloqué avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas une option pour s'en sortir? Il y a une option. Mais une option de teshuva qui est très compliquée, pas la teshuva classique. Parce que la teshuva classique, elle peut réparer seulement le futur. Hein, et elle peut réparer le fait que Dieu ne me punira pas.
Pas que le futur, le passé.
D'accord? Alors, justement, attention. On va, là maintenant, on va tomber dans un nouveau thème, à savoir, il y a deux catégories de teshuva. En vérité, normalement, dans la normalité des choses, on peut pas réparer le passé. Ça n'existe pas, réparer le passé. On peut simplement apprendre à vivre avec le passé. D'accord? On peut apprendre à vivre avec le passé. On peut faire en sorte que Dieu pardonne le passé. D'accord? Et que dorénavant, le futur sera bon, mais normalement, le passé, c'est le passé. On peut pas refaire l'histoire. L'histoire a été faite, elle a été faite.
C'est écrit, ouais.
Hein, c'est comme l'exemple que je vous ai donné, ça fait 3 semaines. Une personne qui a ingurgité du poison, même s'il décide de revenir en arrière, il peut pas. On peut apprendre à vivre avec, on peut s'en sortir, mais on peut pas revenir en arrière. Donc là, maintenant, on va parler d'une nouvelle teshuva. Une teshuva qui a cette capacité d'être capable de ramener la personne encore, de faire comme si que la vera n'existe pas et que même s'il a mangé des aliments non cachères, même s'il a eu des pensées non cachères, même s'il a eu des relations interdites, même s'il a eu des choses interdites, et ben, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, avec la teshuva qu'on va expliquer, non seulement que ses avérotes ne lui seront plus comptabilisées, ça c'est évident, pour toute teshuva, mais en plus, ses avérotes vont être transformées en mitzvot. Ça, il faut qu'on s'arrête un peu. Ça veut dire quoi que l'avérote transforme en mitzvot? Il y a une teshuva, c'est écrit dans la Gemara, qu'une certaine teshuva, les avérotes sont transformés en mitzvot. Comment c'est possible que l'avérote se transforme en mitzvot? C'est pas possible. Ouais. Une personne a fait une bêtise. La bêtise se transforme en bienfait. Mais je suis déjà content qu'on m'efface la bêtise. Ouais. Tu t'imagines la personne qui vient au tribunal, il a tué quelqu'un? Et quand il arrive au tribunal, on lui dit, écoutez monsieur, vous avez bien fait, c'est une mitzvah.
il devient moutard.
Je vais raconter une histoire.
C'est
une fois,
une moutarde, tu es quelqu'un,
c'était la veille du Yom Kippour. Et c'était la veille du Yom Kippour. Il y a un juif qui vient voir son rabbin et qui dit, monsieur le rabbin, j'ai un problème. J'essaye de recenser les fautes que j'ai fait pendant toute l'année et je trouve pas de fautes. Cette année, c'était bien, j'ai pas fait de fautes. Alors, le rabbin lui dit, t'es sûr? T'as bien cherché? T'as pas dit, j'ai cherché, j'ai pas de fautes. C'est un peu d'orgueil, mais bon. Alors, le rabbin lui dit, écoute, si vraiment, vraiment t'as pas de fautes, il faut bien que t'aies une faute pour Kippour. Voilà ce que tu vas faire. Juste avant l'entrée de Kippour, quand tu auras ton talit et ton talit pour aller à la synagogue, pour Kol Nidre, tu sonnes à la porte chez ton voisin, et dès qu'il t'ouvre la porte, tu lui décolles une droite. Voilà, une belle Avera, bien juteuse avant Kippour. Alors l'autre dit, bon, c'est sûr, dit oui, elle n'a pas le choix, il faut faire une Avera. C'est une blague, hein, je vous rassure. Alors l'autre, il est là comme ça, bon, il hésite un peu, c'est un bonhomme qui faute pas, quoi. Et il est là, quelques minutes avant Kippour, il sonne à la porte du voisin, le voisin, il ouvre la porte en personne, et paf, il lui décolle une droite. L'autre, il tombe par terre. Et l'autre, il s'en va en courant à la synagogue. De l'étage, il y a la femme du voisin qui l'appelle et dit « Monsieur, vous avez pas idée la mitzvah que vous venez de faire ?»
Qui a dit ça?
Bon.
La voisine. Ah, le mec, ça devait être en prison.
Bon, c'est une blague. Mais parce qu'en vérité, c'est une avère à ce qu'il a fait celui-là. Il y a pas de... Ça n'existe pas, ça. Donc, on va parler maintenant, on va s'arrêter sur la deuxième teshuvah. Hein. Comment on peut trouver une teshuvah hein, que la teshuvah fait en sorte que non seulement qu'on me parle plus de mon passé, mais que carrément les fautes se transforment en mitzvot. C'est pas possible ça. Je suis déjà content qu'on m'efface les fautes.
Toutes les fautes ou une certaine
toutes les fautes,
catégorie.
Toutes les fautes.
Même le meurtre.
Comment c'est possible? Oui. Alors, oh, atchia set shuvah gdola kolkar chez donot nasulu kisrona. Il faut que j'explique quelque chose avant d'avancer dans la suite. D'accord? Rabotai, il faut que j'explique quelque chose avant d'avancer dans la suite, c'est qu'on doit savoir que cette teshuva qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est une teshuva qui est très 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 compliquée et qui est pratiquement inaccessible. Et qu'en vérité, nous, quand on vise une teshuva, déjà on essaye de faire la teshuva de base, d'accord? Elle existe, elle est accessible, mais elle est très compliquée. Là, nous déjà, quand on fait teshuva, même Kippour, on essaye déjà de faire en sorte qu'on demande à Dieu, voilà, je prends sur moi de plus refaire des fautes, et oublie le passé, et dorénavant le futur sera bon. Mais je veux pas aller jusqu'à demander à Dieu, prends mes fautes du passé comme des bienfaits. Je veux dire, c'est gonflé quand même. C'est ultra gonflé de me dire ça. Et même, comment on peut expliquer ça? Mais même, comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer qu'une personne qui a pris du poison, c'est comme si qu'il a pris quelque chose qui lui a fait du bien? C'est pas possible. C'est du poison. C'est de la drogue. Comment c'est possible?
Mais dis, juste que je comprenne l'enchaînement entre les deux. Tu disais qu'il y a des choses qu'on peut pas, quoi qu'il arrive.
Alors voilà. Il y a des choses. Donc, que pour réparer, il faut attendre Mashiach. Par exemple, une personne qui a mangé un aliment non cachère, il faut attendre Mashiach. Ou bien, la deuxième option qu'on a citée maintenant, qu'il fasse une grande teshuva, que cette grande teshuva qu'on va citer a la capacité de réparer même les fautes, d'accord? Même les interdits.
Alors, c'est réparer, c'est pas faire monter alors, au moment de l'action.
Faire monter et transformer les averot en mitzvot.
C'est le niveau du magieur.
Non, on peut l'avoir ici-bas, mais c'est très compliqué. On va développer. Encore quelques minutes. O achia set shuvak de la kolkar achizan de naso kezruyot. Shehi, c'est quoi cette teshuva? Tshuva me aava me unka deliba. C'est une teshuva par amour de Dieu, du profond du cœur. Be'aava rabba, d'un grand amour. Vachasheka ve nefeshokeka. Un désir et une âme qui a envie de s'approcher de Dieu. Les dof kabo itbarer. Une âme qui a une aspiration de s'attacher à Dieu. Vitsama nafshul Hashem. Et que la personne va arriver dans cette teshuva à un niveau que son âme a soif de Dieu. Qui eretz ayefa vetsia. Il a soif. Comme une personne qui est dans le désert et qui a soif. Vous savez, une personne qui est dans le désert et qui a soif et qui donnerait tout pour une goutte d'eau. Eh ben, une personne qui est arrivée à un niveau de teshuva, que tellement il a soif de la divinité, qu'il a soif comme une personne qui voudrait boire de l'eau. Pourquoi? Et là, en vérité, on a un commentaire du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il dit qu'un juif comme ça, il va aller beaucoup, beaucoup plus loin qu'un tzaddik. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il a soif d'Akadosh Baruch Hu, cette soif va faire qu'il a envie que jamais rien ne sera assez. Il a envie d'aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, et rien va le calmer. Alors, chez les chassidim, on avait l'habitude de donner un exemple, qui je trouve que c'est un bel exemple. Il dit comme ça. Il dit, imaginez une personne, par exemple, on lui raconte, on lui dit, tu sais, dans tel pays, dans telle ville, il y a un trésor. D'accord? Il sait, il y croit qu'il y a un trésor. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un avion, il va aller là-bas, il va courir, il va essayer, et même quand il y a des difficultés, il va courir, il va y aller. Bon. Parce qu'il sait qu'il y a un trésor. Bon, maintenant, s'il y a des difficultés, il voit qu'il n'arrive pas. Et tu vois que le trésor, tu vas aller, mais il voit qu'il y a des montagnes, l'Himalaya, etc. Et tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va essayer. Mais bon, il se dit, écoute, ce qui compte, c'est que je suis en vie. Le trésor, si je le trouve, tant mieux. Je ne le trouve pas, tant pis. Maintenant, imaginez une personne qui se sent en danger, menacée, d'accord? Il sent sa vie menacée. Là, il n'y a plus Himalaya, pas Himalaya. Il court jusqu'à qu'il meure. Parce qu'il est en danger. Il y a le feu. Alors il dit, c'est la même chose. Le Chassidim m'expliquait, il dit, c'est la même chose, la différence qu'il y a hein, entre un Baal Teshuvah et un Tzadik. Mais attention, je ne parle pas de Baal Teshuvah, juste Teshuvah classique. Je parle de la grande Teshuvah. Un Tzadik, c'est comme celui qui sait qu'il y a un trésor au fond. Donc il va courir. Mais tu pourras jamais comparer ça à la soif d'un Baal Teshuvah, hein, que le Baal Teshuvah, il a l'impression qu'il y a un incendie derrière lui. Il a l'impression qu'il y a le feu. Et qu'il a l'impression qu'il doit se sauver. Et on le voit souvent chez le Baal Teshuvah, les gens, ils tiennent pas en place. Le bonhomme, est-ce que je peux pas rajouter une mitzvah? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien? Tu dis, ça va, t'inquiète pas, doucement, comme toi. Et tu vois qu'il tient pas en place. Pourquoi il tient pas en place? Parce qu'il sent que c'est comme si qu'il a l'impression qu'il est en train de quitter un incendie. Alors, dit le Baal Shem Tov, cette personne-là, il va dépasser le tzaddik, parce qu'il va aller plus loin que le tzaddik. Parce que cette personne-là, tellement il a le sentiment qu'il doit, se sauver, qu'il va aller plus loin que le tzaddik. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a été le moteur qui a fait qu'il est allé tellement loin? C'est ses averot. Parce que s'il n'avait pas fauté, jamais il aurait fait cette teshuva. Donc, puisque à cause de ses averot, il a fait teshuva, et que cette teshuva l'a poussé à avancer plus loin que le tzaddik, alors dit le Baal Shem Tov, on découvre qu'en vérité, quel a été le vrai moteur de cette teshuva et de son avancée, c'est ses averot. Donc, les averot qui étaient l'élément qui l'a fait tomber, sont devenus l'élément qui l'a fait avancer plus loin que le tzaddik. Seulement, où est le piège? Le piège, c'est qu'en général, cette phase de la teshuva dure très peu de temps. Voilà. C'est ça le problème. On voit les gens en général, au début de leur teshuva, ils sont tout feu, tout flamme. Ça dure quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et après, hop, vitesse de croisière, ça roule. C'est ça le problème. Si on arrivait, quand on faisait teshuva, à rester toute l'année avec la même teshuva qu'on avait au moment de la Neila, mais on dépasserait les tzadikim. C'est le feu. Tu sens que tu te sauves d'un incendie. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça dure quelques instants. Et après, ça s'en va. Alors que le tzaddik, c'est constant. Ça, c'est la différence. Donc, sur la longueur, le tzaddik, il a gagné. Mais le Baal Teshuva, celui qui arrive à faire une teshuva comme ça, tu lui dis, mais cette personne-là a tout récupéré, a tout changé. Ça veut dire quoi? C'est quand une personne fait teshuva, nous avons deux catégories de teshuva. T'as une personne qui fait teshuva parce qu'il a compris logiquement que sa vie ne le mène nulle part. Et qu'il faut qu'il fasse teshuva, il faut qu'il se reprenne. C'est très bien, ça. Mais ça arrange le futur, ça arrange pas le passé. Ça arrange le fait que Dieu ne lui parlera plus de son passé, mais il n'a pas réparé son passé. Celui maintenant que tellement il est conscient que son passé est problématique, qu'il est là constamment à vouloir rajouter, et tu sens qu'il a le feu, qu'il a la soif, et que rien ne peut l'arrêter, et ben celui-là, étant donné que ce qui a fait cette soif, c'est ses averot, et ben dans ce cas-là, on peut dire que ses averot se sont transformés en mitzvot, parce que c'est ses averot qui ont fait qu'il s'est approché d'un Kadosh Baruch Hu. Alors évidemment, 99,999% des gens ne font pas de teshuva comme ça. Et honnêtement, il faut toujours essayer, mais c'est très rare les gens qui arrivent à faire une teshuva comme ça. Nous, déjà, on va se contenter d'une vraie teshuva, une teshuva sincère, dans laquelle sincèrement je dis à Dieu, je ne recommencerai pas. C'est déjà extraordinaire de faire ça. Être capable de dire sincèrement, je ne recommencerai pas, si déjà à Kippour on arrivait à le faire, c'est déjà un exploit. Dire, je ne recommence pas, et de le faire. Et de le dire de tout son cœur. C'est vrai, pas de problème. Mais dans ce cas-là, on rentre pas dans cette teshuva-là de celui qui c'est comme si qui se sauve d'un incendie. Donc je finis avec ça. Aval, teshuva, shelom et avazo, mais une teshuva qui n'est pas de cet amour-là. Ça veut dire, ce que, on expliquera plus tard, il y a la teshuva par crainte, il y a la teshuva par amour. La teshuva par crainte, celui qui dit voilà, ma vie ne vaut rien, il faut que je revienne vers Dieu. La teshuva par amour, c'est celui qui a le feu, comme je vous ai expliqué. Alors il dit comme ça. Imaginons une personne qui a mangé un morceau de cochon. Il n'était pas religieux par exemple, il a mangé un morceau de cochon. Il a eu une relation interdite, il a fait un interdit. Là, dans ce cas-là, on ne peut plus dire comme tout à l'heure que comme c'était un aliment permis, il va revenir chez Dieu quand il va étudier la Torah. Pourquoi on ne peut plus dire ça? Parce que c'est un aliment interdit. Et s'il est interdit, ça veut dire qu'il est... Il est bloqué. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Il te reste deux options. Première option, c'est de faire une teshuva classique. Mais dans ce cas-là, pour que ce soit complètement réparé, il faudra attendre Mashiach. Deuxième option qui te reste, c'est de faire une grande teshuva, une teshuva par la soif, par amour, une teshuva dans laquelle que tu es là constamment à vouloir te rapprocher de Dieu, et la teshuva et la soif, et la soif, et la soif. Alors, on n'a pas trop développé ça ici, mais on développera dans la suite cette teshuva par amour, que la personne sent qu'il a une soif, et qu'il a envie d'encore, encore. On le voit assez souvent chez les Baal Teshuva dans la première phase. Qu'il est là, il n'y a rien qui va assouvir sa soif. Vous savez, c'est horrible même comme sentiment. Mmh. Tu bois, t'as soif. Normalement, quand tu bois, à un moment tu dis « Ah !» Ben celui qui a soif, ce Baal Teshuva, il n'y a pas un moment où il fait « Ah !» Non, il a constamment soif. Et ben cette personne-là, on peut parler d'une Teshuva par amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait ça par amour pour la Kadosh Baruch Hu. Mais si c'est pas ce cas-là, dans ce cas-là, il faudra attendre que ma chère arrive. D'accord? Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, on continue la semaine prochaine. Donc, en tout cas, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, pour résumer, aujourd'hui, on a expliqué l'importance. Donc, pour résumer, si je mange un aliment kasher, mais que je le mange par gloutonnerie, donc ça peut être une bonne viande, un bon vin, relation, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit.
Il y a des traces, c'est chaud.
On a dit que ça descend avec les forces du mal, mais dès que je vais étudier après, qu'est-ce qui va se passer? ça remonte chez Hachem, tout en laissant des traces qui partiront lorsque je vais partir de ce monde-ci et que les anges vont me frotter. Comme ça, c'est écrit. Par contre, pourquoi? Parce que l'aliment était moutard. S'il était moutard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est accessible. Donc, le problème n'était pas dans l'aliment, le problème, il était chez moi. Mais si je mange un aliment qui est interdit, puisque l'aliment est interdit, donc il est inaccessible. Donc c'est comme la mort, donc c'est comme ce qui les interdit, donc il n'y a rien à faire. Et je l'ai mangé maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il fait partie de moi. Deux options. Première option, on attend que Mashiach arrive. Dieu t'a excusé avec les teshuvah. Il t'en parle plus au jugement. Mais la trace est là. Il ne peut rien faire. On est bien d'accord. C'est-à-dire que les teshuvah, Dieu t'en parle pas, il te punit pas, d'accord? Mais les faits sont là, on peut pas les enlever. La vera est là.
Et alors c'est pas grave.
D'accord? C'est pas grave, ça dépend pour qui, c'est pas grave.
Si Dieu, il t'en parle pas.
Il t'en parle pas, mais il y a une trace.
Ça va, d'accord, mais il t'en parle pas.
Il parle plus. Il a oublié.
Je me suis accroché avec quelqu'un. D'accord? Je me suis accroché avec quelqu'un que j'aime très fort. D'accord? On s'est excusé. On s'est expliqué, on s'est excusé. Ça laisse des traces. Même si j'ai amené le bouquet de fleurs, etc., ça laisse des traces. C'est la même chose. C'est que la Vera a laissé des traces. Qui ne partent pas. Il faudra attendre ma chair pour qu'ils partent. Première option. Deuxième option. Sinon, si une personne arrive à faire une teshuva par amour, dans laquelle il sent qu'elle a le feu, qu'elle a la flamme pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, et que rien ne le calme, d'accord, et que du coup, comme a expliqué le Baal Shem Tov, c'est les Averot sont devenus l'élément qui l'a poussé à monter vers Akadosh Baruch Hu, qui l'a poussé à dépasser le tzaddik, là on peut dire que ces Averot-là sont devenus des mitzvot. Parce que grâce à ces Averot, il a dépassé le tzaddik. Et ça, vous comprenez que c'est un niveau qui est très, 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 très compliqué et qui est pratiquement inaccessible.
Mendy, il peut cumuler combien de fois?
Quoi?
Il mange toute la semaine, il attend Shabbat, il va faire un cours.
Ah non, ça marche pas, ça. Parce que celui qui fait une avéra en disant je compte sur le cours qui a pris. D'abord, attends, cumuler pourquoi? Il a mangé quoi?
La gloutonnerie, il mange toute la semaine,
Et pas de problème. Il mange toute la semaine comme un glouton, il arrive Shabbat, il va écouter un cours de Torah, il va venir lundi soir au cours de Tanya, ça monte chez Akadosh Baruch Hu. Mais ça laisse des traces dans son corps.
Toute la semaine, elle monte?
Toute la semaine. Mais ça laisse des traces dans son corps.
Pas plus, hein.
D'accord? Pas que toute la semaine. Tout monte. Mais ça laisse des traces. Tu comprends? Des traces, ça veut dire que ça laisse des traces de gloutonnerie. Devenir un glouton, c'est pas bon. C'est ça laisse des traces de mauvais caractère dans la personne, si tu veux. Chaque parole que je dis, ça laisse une trace sur mon caractère. C'est comme ça. Parole, pensée, action, chose que je mange, chose que je dis, chose que je fais, ça laisse une trace. D'accord? Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, on continue à s'approcher.
Le seul moyen de dépasser un tzaddik,
c'est la teshuva.
Ouais, non. Mais la grosse
tzaddik, c'est inaccessible.
Mais attention, 100%. La teshuva par amour.
Voilà, oui.
La teshuva, le feu aux poudres. Hein,
mais
c'est,
nous,
voilà.
Nous, c'est notre seul moyen.
Le seul moyen. Mais le problème, encore une fois, je pense, honnêtement, je pense que toutes les personnes qui font teshuva, ils ont tous un moment dans lequel ils ont le feu aux poudres, comme ça, dans lequel voilà, ils sentent qu'il n'y a rien qui va les arrêter. Mais le problème, c'est que ça ne dure pas longtemps. C'est ça le problème.
C'est
que ça dure quelques temps, et après, une fois qu'on prend la vitesse de croisière, on s'arrête.
Mais une fois finalement qu'ils ont consommé le combustible.
Oui, mais c'est déjà énorme, même non. Si la vitesse de croisière.
Si, parce que s'ils ont transformé,
Oui, mais c'est pas assez.
C'est tout le temps, oui.
Il faut que ça dure tellement de temps qu'il dépasse le tzaddik. Là, il n'a pas dépassé le tzaddik.
Oui, d'accord, mais en attendant, il faisait tout le reste de sa vie.
C'est quand tu dis qu'on transforme ces adhérents.
Je vais t'expliquer, c'est très simple.
Imaginons que c'est du combustible, ces adhérents.
J'ai compris.
Une fois qu'il a consommé tout ce produit, il peut monter.
Si je vais donner un exemple, c'est comme si par exemple, on va te dire que le tzaddik, il est à une hauteur de 10 000 mètres d'altitude. Un exemple, d'accord? Et que moi, je suis à moins 10 000. Je prends une fusée, d'accord? Et la fusée de la teshuva, elle me fait monter à 2 000. Mais après, la fusée s'arrête. C'est pas mal, je suis arrivé à 2 000.
C'est pas la même route.
Mais je suis pas arrivé à 11 000.
C'est pas la même route, non?
Mais celui qui arrive à garder cette fusée, qu'il arrive à 11 000, 12 000, là on peut dire que.
C'est pas le même combat, c'est pas
quoi?
Le même.
Il a fait pas assez d'Averot.
Non, t'inquiète pas.
Non, tu vois.
Le roi David disait oui. Ma faute est toujours devant mes yeux. Ouais. Le roi David. Il dit ma faute, il a fait une faute. Ma faute est toujours devant mes yeux. Pourquoi? Le fait que sa faute est devant ses yeux, ça veut dire que constamment il retient sa faute devant lui et qu'il utilise sa faute comme un moteur pour monter vers un Kadosh Baruch Hu. C'est un niveau ça. Mais honnêtement, je sais pas, franchement, déjà faisons une teshuva sincère, ne plus recommencer.
Parce que le roi David a fait une faute.
Une faute principale, oui.
Une faute principale.
Oui. D'accord, voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.
On peut dire qu'un roi il a fauté, non?
Allez, les Chaim. Bon Shushan Purim. Alors en Israël, il devait être bien aimé chez Esther-ci.
Chaïm, Chaïm. Bon, on récupère cette semaine.